Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un nouveau thème, l'ours. L'ours dans nos régions, avec Maëlys Adémar, une jeune femme aux nombreux talents qui écrit sur des sujets les plus divers et qui est déjà primée alors qu'elle n'a que 37 ans. Maëlys Adémar, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir à Radio Présence pour présenter votre deuxième livre, La Grande Ours, qui est paru il y a très peu de temps et qui a déjà un vif succès. Je voudrais quand même parler aussi à nos amis auditeurs de votre premier livre qui s'appelait Béni soit Sixtine, qui a rencontré un véritable succès et que j'ai eu la chance de lire, de dévorer et de faire lire à 15 amis autour de moi qui l'ont toutes savouré. Donc je vous recommande Maëlys Adémar, le premier livre, et aussi le second, La Grande Ours, qui traite d'un sujet complètement différent. Je ne dévoilerai pas le premier, mais je vais vous dévoiler le thème du deuxième livre, qui évidemment, vous devez vous en douter, La Grande Ours, parle de l'ours, et où, dans nos régions, c'est-à-dire dans l'Ariège, dans les Pyrénées, dans un département limitrophe. Maëlys Adémar, bonjour. Alors, qui êtes-vous, Maëlys Adémar? Une jeune femme de 37 ans qui en est déjà à son deuxième livre. Dites-nous comment vous êtes arrivée à l'écriture alors que vous êtes journaliste.
Alors, l'écriture a toujours fait partie de ma vie depuis bien avant mes débuts en tant que journaliste. C'est-à-dire que j'écris depuis l'âge de 8 ans, mes premiers petits textes, des romans, des pièces de théâtre. Voilà, j'ai toujours écrit et j'ai toujours écrit pour les autres. J'aurais écrit pour être lue, notamment par mes sœurs quand j'étais enfant. L'écriture a toujours été une place très très importante depuis l'enfance, à l'adolescence aussi. Et puis quand j'ai grandi, je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire, moi qui ne sais pas faire grand-chose si ce n'est écrire. Et donc j'ai décidé, après des études d'histoire, de devenir journaliste pour pouvoir vivre de ma plume, d'une certaine façon.
Journaliste dans l'écrit, alors.
Journaliste en presse écrite.
En presse
exactement,
écrite, d'accord.
Ouais. Oui. Parce que pour moi, le métier d'auteur, d'écrivain, me semblait complètement inaccessible. Je n'avais pas de connaissances dans ce milieu-là, ça me semblait quelque chose de complètement inaccessible. Et le rêve d'enfant que j'avais de vivre au fond des bois et d'être écrivain, on y croit quand on a 8 ans, on est persuadé que c'est possible. Et puis à l'âge de 18-20 ans, on se frotte au réel. Et là, je m'étais dit que ce n'était pas, que c'était pas possible, que ce n'était pas réalisable, que je n'avais pas ce talent-là. Et du coup, pendant pas mal d'années, j'ai mis un peu entre parenthèses ce travail d'écriture. J'ai jamais lâché la fiction. J'écrivais de temps en temps, mais j'avais peu de temps pour ça parce que quand on écrit toute la journée, le soir, on n'a pas envie de se remettre à écrire, même si c'est de la fiction. Donc, j'avais jamais lâché ça, mais c'était toujours resté un peu une petite part, un regret aussi.
Et alors, comment est-ce que vous avez franchi le pas, finalement, du rêve passé à la réalité?
Ouais, j'ai franchi le pas grâce à mon fils, mon premier fils, quand il est né, Johan, c'était il y a 7 ans. Et là, je me suis dit, c'est fou, j'ai été capable de faire ce bébé, ça me semblait incroyable quand je l'ai vu, d'avoir fabriqué cet enfant. Et je me suis dit, c'est fou, j'ai fait un bébé et j'ai toujours pas fait un livre.
Ah, c'est ravissant ce que vous dites.
De réflexe comme ça, où je me suis dit... quand même, il faut que tu... C'était comme un
déclencheur.
Un déclencheur. Je me suis dit, j'ai toujours eu ce rêve d'aboutir à un livre. Je disais même pas de voir un livre publié, mais d'aboutir à une vraie histoire en tant que adulte, une vraie histoire construite, bien écrite, qui pourrait être lue par d'autres. Et ça a été un déclencheur. Et je me suis dit, il faut que je m'offre du temps. Il faut que je m'accorde du temps. Donc une fois le bébé ayant un tout petit peu grandi, j'ai décidé de m'accorder du temps pour écrire. Et là, une histoire m'est tombée dessus. Et c'est l'histoire de Sixtine.
Le premier livre que vous avez écrit, voilà. Qui a déjà remporté un succès certain.
Qui a pris corde, voilà, qui a été édité assez rapidement. J'ai eu la chance que ça ne traîne pas, que les choses se fassent très vite. Et donc, Béni soit Sixtine est sorti en 2020. Et depuis, je consacre une grande partie de mon temps à l'écriture. J'ai mis de côté mon travail de journaliste. Je fais aussi des ateliers d'écriture avec des jeunes en milieu rural au sein d'une association de journalistes toulousains. Et puis, la plus grosse partie de mon temps est consacrée à l'écriture et à l'accompagnement des livres, parce que quand un livre sort, ben, il y a aussi toute une tournée, on va un peu partout en France, ce qui a été le cas pour La Grande Ourse. Voilà, j'ai fait plus d'une 20-30 rencontres dans des librairies, voilà, de la Bretagne à Toulouse, voilà, en passant par le Béarn et d'autres régions.
Pour votre premier livre, Béni soit Sixtine, vous n'avez pas eu besoin de faire toute cette tournée ?
Alors pour Béni soit Sixtine, il y a une tournée aussi, mais c'était un contexte particulier parce que c'était le contexte du confinement. Donc le livre est sorti juste après le premier confinement et on a été très vite reconfinés. Donc en fait, pendant 8 mois, il y avait un confinement, un couvre-feu. Et donc je n'ai pas vécu toute cette tournée des libraires qui est très fréquente, hein, qui est tout à fait normale.
Oui, qui est assez classique
voilà,
quand même.
Une vie d'auteur. Et donc moi, j'ai fait 2 ou 3 rencontres dans la région et puis après, tout a été bloqué. Donc pendant presque 8 mois, il ne s'est rien passé. Et après, la tournée a repris un peu plus tard et du coup, de façon un peu plus étalée. Et là, c'est vrai que j'ai vécu une tournée plus concentrée. C'est-à-dire, le livre est sorti en janvier et de janvier à juin, voilà, j'ai dû faire presque 30 dates.
Et est-ce qu'il y en a d'autres de prévues ou est-ce que vous
oui.
avez... Ah oui.
Ouais, tout à fait. Là, il y en a d'autres de prévus. Bah, ce dimanche, je vais à côté de Paris pour un festival de littérature. Et à partir de septembre, je recommence aussi. Il y a pas mal de librairies, de festivals, d'événements littéraires jusqu'à la fin de l'année. Ouais.
Vous pensez que c'est très important pour les ventes ?
Je ne sais pas si c'est très important pour les ventes. Je ne pense pas que ce soit très important en termes de chiffre de vente. Je pense que c'est très important pour un auteur de rencontrer les lecteurs, d'avoir des retours de lecteurs, de créer aussi un lien avec ces gens qui vous lisent. C'est très étonnant en fait de voir aussi, ça apporte quelque chose parce que c'est très émouvant de voir quand un livre a touché des gens, quand des personnages ont touché des gens, de voir qu'en fait on est lié à des lecteurs qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas de notre génération, de notre culture. Parfois de notre culture même, et qu'on a un lien avec ces gens par ce personnage, par ce livre qui est né, qui est le fruit de notre imagination. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'assez émouvant. Et puis ensuite, je pense que c'est très important, en fait, dans la vie d'auteur. Alors, il y a des auteurs qui ne veulent pas, hein, qui vivent
au fond. Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui refusent, quand même, de sortir.
Il y en a qui refusent, qui vivent au fond des mois. Puis il y en a beaucoup qui jouent le jeu aussi, parce qu'il y a beaucoup d'événements littéraires. Et puis, il y a un lien qui se crée aussi avec les libraires. C'est-à-dire que moi, il y a des libraires qui sont devenus des amis, où il y a eu des très belles rencontres, et on sait que c'est des gens qui vont continuer à nous suivre, à nous aider dans notre travail aussi, c'est-à-dire à nous faire des retours intéressants. C'est des gens qui disent beaucoup. Voilà, ça crée quelque chose en fait de plus autour du livre.
Si vous voulez, ce qui me surprend, je vais à un salon du livre hein, parce que j'ai l'habitude d'y aller. Je vous rencontre, je n'ai pas encore lu votre livre. Je prends un exemple lambda. Donc, comment créer un lien avec vous ? Je me dis, bon, j'ai lu des critiques sur vous dans la presse, mais je ne peux pas créer encore de lien avec vous tant que je n'ai pas lu le livre. Et ça veut dire, quand vous rencontrez les gens, ça implique qu'ils aient déjà lu votre livre.
Moi, je fais très peu de salons du livre parce que je ne suis pas très à l'aise avec le côté être assis derrière une table, avec les gens qui passent, etc. Je ne suis pas trop vendeuse, donc j'ai pas le réflexe d'aller
alpaguer
le chaland. C'est un autre métier.
C'est un autre métier.
Et c'est vrai que moi, ce que je préfère, c'est les rencontres, c'est-à-dire les rencontres organisées par des librairies. Souvent, on parle des bibliothèques où vous venez, les libraires avant ont parlé de votre livre. Il y a des gens qui l'ont lu, il y en a qui ne l'ont pas lu, mais les libraires en ont parlé, l'ont défendu, ou les bibliothécaires. Et du coup, les gens viennent pour entendre ce que vous avez à dire. Donc, c'est un jeu de questions-réponses. Et souvent, ce sont des très beaux moments d'échange. C'est souvent des moments où il y a aussi des incompréhensions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « mais ça, je n'ai pas compris ». Des gens qui ont lu, qui me disent « j'ai pas compris pourquoi tel personnage a dit ça ». Il y en a qui sont en colère, qui me disent « j'aurais aimé qu'elle se révolte, qu'elle ne fasse pas, qu'elle ne reste pas comme ça », etc. C'est assez amusant de voir les réactions des gens. Puis, il y a aussi des moments où les gens se confient, racontent des choses d'eux-mêmes, parce que les livres racontent aussi une part d'eux.
Oui.
Et du coup, c'est souvent des très beaux moments d'échange.
Ah oui, alors là, je comprends très bien. Ça se fait de plus en plus, là, dans les librairies ?
Oui, ça se fait beaucoup, ouais.
D'accord.
Oui, là, tous les événements dont je vous parle, c'est quasiment que ça, que des rencontres en librairie ou en bibliothèque ou sur des festivals.
Oui, alors là, je comprends.
Et ça temps d'échange organisé. Ouais.
Oui, oui, ça me paraît absolument passionnant.
Tout à fait.
D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire avec vous. J'ai lu le livre et j'ai envie de vous questionner.
Voilà, c'est un peu comme finalement un temps d'échange avec un journaliste, sauf que là,
c'est
agrandi, élargi avec tout un ensemble de 20, 30, 40 personnes qui sont là.
Ah oui, je comprends que ça soit passionnant pour vous, d'accord. Oui. Alors, je vais reprendre mes questions. quand même, parce que j'en ai préparé de nombreuses pour, en ce qui vous concerne. Alors, depuis quand écrivez-vous ? Vous nous avez dit finalement depuis la naissance de Joanne, donc qui a été ce déclencheur extraordinaire. Ce qui vous a donné le goût de l'écriture et de la lecture, finalement, c'est inné ?
Oui, je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient. Mes parents étaient lecteurs, il y avait des livres à la maison, mais je n'étais pas une élève, je n'étais pas une très bonne élève. Je n'ai jamais été aller éplucher les livres. Je lisais beaucoup étant enfant, mais je n'étais pas non plus l'élève la plus scolaire. Je pense que c'était l'imagination qui débordait. J'avais très envie d'imaginer des histoires. Je les imaginais dans ma tête et après, j'avais envie de les raconter, de les écrire.
Alors, vous parlez d'imagination, pourtant, dans les deux livres que j'ai lus de vous, puisque pour le moment, vous n'êtes auteur que en publié pour le grand public, il y a encore que deux livres, mais ce qui est normal. Moi, je n'ai pas vu d'imagination, je trouvais que c'était tellement collé au réel, et le premier livre et le deuxième, à part les histoires sentimentales, je dirais, qui sont... Et encore, je trouve que dans le premier, et comme dans le second, les descriptions sentimentales des jeunes couples, là, sont quand même très bien faite, très bien vue, très actuelle, très...
Alors pour moi, l'imagination, c'est quelque chose qui... Justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'imaginer des personnages, de créer des personnages, parce qu'aucun des personnages dont je parle, que ce soit Sixtine dans Béni soit Sixtine ou Zita dans La Grande Ourse, n'existe.
Oui, 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 c'est une compilation de personnalités différentes que vous avez croisées, que vous avez...
Ou pas, ou c'est des personnages qui sortent de l'imaginaire. Moi, pour moi, l'imagination, ah oui. Moi, je n'ai pas envie d'inventer un autre monde. Ce qui m'intéresse, c'est dans un contexte réel, dans un milieu social déterminé, de créer des personnages avec leur personnalité qui est propre, qui ne ressemble à personne qui existe à ma connaissance. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui me plaît, c'est d'imaginer des gens, d'imaginer leur trajectoire. Et c'est là où je parle d'imagination, c'est imaginer des vies qui n'existent pas, qui ne sont pas les miennes et qui pourtant vont raconter quelque chose du réel.
Ces personnages que vous écrivez nous accrochent terriblement parce que moi, en tant que lectrice, je les trouve terriblement vrais. Et dans le premier livre et dans le deuxième livre, j'ai été scotchée, je dirais, par le réalisme de ces personnages que vous décrivez. Et oui, j'ai trouvé que ça pouvait être complètement. C'était pas des. J'étais pas du tout dans la science-fiction. J'étais dans le monde actuel. Moi, je trouvais que les personnages, j'aurais pu les rencontrer. Voilà, je trouvais que c'était donc imaginaire, oui, mais en même temps tellement bien collé à la réalité d'aujourd'hui. Du 21e siècle. Alors, dans le premier livre, Béni soit Sixtine, c'est moins local. Mais dans le deuxième livre, qui se passe et à Toulouse et dans l'Ariège, donc ici où nous vivons tous, enfin, puisque l'Ariège est mitoyenne de la Haute-Garonne, j'avais l'impression que ces gens-là, j'allais les rencontrer, vos personnages. Ce sont des gens que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça va vous donner, chers amis auditeurs, envie de lire La Grande Ourse de Maëlys Adémare, parce que ces personnages sont palpables. Voilà, tous les personnages de La Grande Ourse, comme dans le premier livre, sont tout à fait... Le premier, peut-être un petit peu moins, c'est un milieu plus fermé. Mais dans La Grande Ourse, les personnages sont palpables, on a l'impression. Il suffit de faire quelques kilomètres, d'arriver dans l'Ariège, d'aller dans le Couserans, dans la vallée du Stoux, d'aller près de Saint-Girons. Et ces gens qui sont dans le livre, vous allez les rencontrer. Et après, le couple de Pierrick et de
Zita.
Comment s'appelle sa femme ? Inès et Émilie.
Ah, mais son ex-compagne.
Et de Zita, l'héroïne. Alors, Zita est un autre personnage. Ce sont des gens, je vais sur le quai de la Garonne, je prends un café, j'ai l'impression que je vais les rencontrer tellement ils sont palpables et bien campés, en fait. Parce que ça, vous avez une bonne plume. Vous avez déjà beaucoup de talent d'écrivain. Ça, c'est quand même très agréable à lire. Alors, donc, La Grande Ourse se passe dans l'Ariège, en Ariège et à Toulouse. Donc pour nous, c'est très très agréable parce que ce sont en principe les Toulousains se promènent beaucoup. Toulouse, les Toulousains aiment Toulouse. L'Ariège, c'est à côté, c'est un département qui se développe de plus en plus. Alors on va donc dans la commune du Stoux, on va à Auxèze où j'ai eu envie d'aller. Je me suis dit, je vais prendre ma voiture et je vais aller à Auxèze trouver la ferme de Zita, puisque alors l'héroïne du livre s'appelle Zita. Alors, Zita est un personnage quand même hors du commun, mais pas tant que ça, Mais pas tant que ça, parce que d'abord, elle a fait Purpan, chers amis toulousains. Donc Purpan, tout le monde a entendu parler de cette grande école à Toulouse. Donc elle est toulousaine, ariégeoise, et elle est cultivée, puisqu'elle a fait cette école. Et alors, c'est l'héroïne qui rue dans les brancards de ces Toulousains bobos que vous avez si bien décrits. Voilà.
Oui, Zita, c'est la fille de la ferme, c'est-à-dire qu'elle a grandi dans une famille d'éleveurs transhumants, donc qui pratiquent l'estive. L'été, ils ont des brebis. C'est une famille modeste qui vit au fin fond du Couserans, dans la vallée du Stou, à Oussez. Donc, c'est-à-dire on est au bout du monde. Là, Oussez, c'est le bout de la route. La route s'arrête. Ah. Et de l'autre côté, on peut pas aller. C'est l'Espagne, mais on peut pas y aller. Il n'y a pas de traversée. Ou alors, il faut y aller à pied ou avec une mule. Mais c'est le bout du monde. Donc, personne ne va là-bas. Ce sont des coins très préservés, des endroits où il n'y a pas du tourisme de masse. Il n'y a pas de grosses stations de ski. Il n'y a pas de traversée centrale des Pyrénées pour les camions. Donc, on est vraiment à l'écart. Des gros axes. Sa famille vit là. Elle a un amour profond pour ses parents, pour sa terre, pour son frère. Et puis, comme beaucoup de jeunes, elle était bonne élève, donc elle a fait des études. Elle est devenue ingénieure agronome. Et puis, le travail, il fallait le trouver. Et elle a eu le besoin d'aller trouver du travail et aussi le désir d'aller plus loin que ces montagnes et de découvrir le monde. Donc elle est partie, elle s'est expatriée pendant 5 ans. Et le livre commence avec le retour de Zita dans sa vallée. Elle rentre parce qu'elle va avoir 30 ans, elle a un désir aussi de s'ancrer dans son territoire. Elle voit que ses amis autour d'elle commencent à se marier, à avoir des enfants. Et elle se demande ce qu'elle fait un peu dans cette vie très vagabonde. Et elle décide de revenir chez elle, mais elle sait que c'est pas gagné d'avance. De quoi va-t-elle vivre là-bas ? Il n'y a pas de place pour son frère sur la ferme, il n'y a pas de place pour elle. Ce sont des tout petits élevages. Et en plus de ça, ces élevages sont confrontés, d'autant plus depuis quelques années, à la présence de l'ours qui a été réintroduit dans les années 90 et qui s'est... ils se sont multipliés, ils ont fait des petits. Et puis ces ours, surtout, ne se sont pas dispersés, contrairement à ce que pensaient les élites... les techniciens parisiens qui ont choisi de réintroduire l'ours. Ils ne se sont pas dispersés dans le massif. Ils sont, pour la plupart, dans le centre des Pyrénées, c'est-à-dire en Ariège, dans le Couserans. Il y en a plus d'une cinquantaine sur ce territoire-là.
Alors, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai relevés dans la presse. Il y a 80 ours dans les Pyrénées. Il y en a 60 dans le Couserans. Donc, ils sont tous regroupés autour de la ferme.
Il y en a un petit peu dans le Béarn, un tout petit peu dans les Hautes-Pyrénées, mais c'est-à-dire quelques individus. Et ils sont quasiment tous dans le Couserans. Sans compter, là, on parle... Voilà, ces chiffres, c'est des chiffres de ceux qu'on a repérés. C'est-à-dire, on a trouvé leur ADN, leurs empreintes, etc. Ils ont été identifiés.
Mais je croyais qu'ils avaient un collier aussi.
Alors, ils n'ont pas tous des colliers.
C'est ce que j'ai lu.
Ceux qui ont été réintroduits, mais il y en a beaucoup qui les ont perdus. Puis aujourd'hui, des ours réintroduits, il en reste quelques-uns, mais la plupart sont des descendants. Oui. Donc, eux, ils n'ont pas de collier. C'est grâce aux traces qu'ils laissent, c'est-à-dire les poils. Il y a des prélèvements qui sont faits par l'ONB pour trouver justement pour savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se fixent, comment ils se déplacent, comprendre leur trajectoire, etc. Et donc, on sait de source sûre qu'il y en a 80, mais il y en a peut-être plus que 80. C'est-à-dire qu'il y a aussi ceux qui passent en dehors des radars. Il y a les petits qui sont nés cette année, donc on ne sait pas exactement combien il y en a. Et les portées se portent plutôt bien, en général. Donc là, on arrive à un moment où, en fait, il y a beaucoup d'ours pour un territoire assez restreint, parce que finalement, c'est le seul endroit du massif qui est resté tranquille pour eux. Eux, ils n'ont pas besoin d'altitude. Les ours, ils ont besoin de tranquillité. Donc, c'est le seul endroit où ils sont tranquilles. Mais c'est aussi un endroit où il y a des bergers, où il y a l'élevage transhumant. Et donc, il y a un conflit de territoire qui se fait dans un espace très limité, un espace naturel et sauvage que les éleveurs et les bergers ont su préserver. Et eux se retrouvent avec cette double peine de voir l'élevage transhumant qui est attaqué à la fois par l'agro-business, parce qu'ils ne peuvent plus vivre de la vente de leurs agneaux dans le contexte actuel, et en même temps, de l'autre côté, ils sont pris en tenaille par les pro-ours qui les empêchent de faire des tirs d'effarouchement quand ils ont trop de prédation, etc. Donc c'est une famille qui se retrouve aussi en survie, en fait, en sursis, parce qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir continuer à vivre de ce qu'elle fait. Et donc Zita est dans cette ambivalence où à la fois elle a envie de vivre, donc elle rencontre Pierrick, ce jeune Toulousain
Ingénieur, jeune bobo toulousain.
Ingénieur aéronautique, très sympathique, etc. Donc elle a envie de vivre une vie de jeune femme, de tomber amoureuse, de s'installer, pourquoi pas de fonder une famille, etc. Et d'avoir un travail, elle a besoin financièrement, voilà, elle ne vient pas d'une famille très riche, elle a besoin d'avoir un travail, donc le travail c'est aussi à Toulouse.
Ah, elle est une jeune femme de son époque.
Elle est une jeune femme de son époque, ouais. Et en même temps, elle a un désir profond de revenir chez elle. Elle fait des perpétuels, pendant le roman, aller-retour entre Toulouse et sa ferme, la ferme de ses parents, parce qu'elle a à la fois un désir d'être là-bas, elle retape une cabane qui était la cabane de sa famille, une grange, qu'elle retape en se disant bah, « peut-être que je pourrais y vivre, m'y installer ». Et en même temps, elle est happée aussi par cette vallée parce qu'il s'y passe des drames. Parce que l'été n'est plus un moment de répit où les troupeaux sont en montagne, le berger les garde et les éleveurs peuvent faire les travaux des champs. C'est un moment de tension et de peur parce qu'ils savent qu'un drame peut arriver. Les ours sont là et les ours ne mangent pas que des plantes. Ils mangent beaucoup de plantes, mais aussi, et notamment en fin de saison, quand il y a moins de plantes, justement, ils mangent des brebis. Et pas que des brebis, ils mangent d'autres petits animaux, des marmottes, des isards, etc. Ils se nourrissent aussi de ça. Et donc, ils attaquent les troupeaux. Et les attaques peuvent tourner au drame.
Alors, les attaques peuvent tourner au drame. Alors, Zita, l'héroïne du roman, en fait, avec ses allers-retours entre l'Ariège et Toulouse, c'est un moyen de nous faire réfléchir sur la ville et l'Ariège, la ville et l'Ariège, ce que vivent les gens en ville avec l'inconscience de la ville et l'Ariège et les problèmes de l'Ariège et de ses éleveurs. Donc, ces allers-retours sont en réalité des allers-retours en voiture, parce que elle part de l'Ariège à Toulouse pour rejoindre Pierrick et elle repart en Ariège, enfin ses allers-retours. En réalité, c'est aussi beaucoup de réflexion pour nous. Ça nous permet de réfléchir en nous disant c'est la question que je me suis dit, qu'est-ce qu'on ferait si on était à sa place? Parce que Toulouse est une ville extraordinaire, la modernité c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. L'Ariège c'est quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps on se rend compte que ce n'est pas viable. Et donc c'est une façon de nous faire réfléchir, je dirais, sur le roman, sur cette histoire sentimentale entre Pierrick et Zita. En réalité, il y a matière à réfléchir. Le roman, l'histoire sentimentale peut être prise en détail, je dirais, sur la réflexion que nous pousse à faire Zita, finalement, sur le monde dans lequel nous vivons.
Parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'autour du sujet de l'ours, en fait, c'est beaucoup plus large que l'ours. C'est pas que le sujet de l'ours, on le traite dans les médias, les pros, les anti. Mais c'est beaucoup plus large que l'ours. C'est toute une vision de la nature, de la place de l'homme dans la nature. De qui décide pour la nature aussi? Est-ce que c'est des gens qui y vivent ou est-ce que c'est des gens qui en sont étrangers, c'est-à-dire les urbains? C'est vrai que toutes ces questions, moi, m'intéressaient. Et Zita, en fait, elle se retrouve entre ces deux mondes et finalement, elle est incomprise. C'est-à-dire quand elle est dans le monde des bobos, c'est-à-dire on la regarde un peu comme une curiosité.
Ah, complètement.
Elle a été bergère. Ça fait rêver un peu les gens. Et en même temps, à partir du moment où il y a des éleveurs qui ont sorti les fusils, on les regarde aussi comme des arriérés, et il y a aussi tout un jugement sur eux, hein, tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'agribashing, à tort ou à raison parfois, mais je veux dire, il y a aussi tout ce jugement, et Zita, elle se trouve à un point où elle veut prendre la défense aussi de son milieu, et mettre aussi aux citadins le nez dans toutes leurs contradictions, c'est-à-dire que ces gens qui roule à vélo, et tant mieux, c'est très bien, et il faudrait le faire beaucoup plus.
Et achète, et du vin de Californie.
Et qui achète du vin de Californie.
Et du mouton d'Australie.
Et du mouton, voilà, de Nouvelle-Zélande. Mmh. Et qui disent, bah, l'éleveur, qu'est-ce qu'il a à se plaindre? C'est bon, il a des aides de la PAC. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a cette contradiction des villes, parce qu'aussi, en ville, on est beaucoup à ne plus avoir de lien avec la ruralité, avec l'agriculture. On est coupé.
En fait, le livre montre bien le fait que les gens de la ville sont coupés de la réalité. Et Zita, en réalité, représente le bon sens, moi, je trouve. Parce que finalement, elle a les deux facettes.
Oui,
elle a les pieds dans la terre et les pieds dans la ville.
Et puis, il y a la différence aussi entre l'idéologie, qui est de dire il faut remettre de la biodiversité. Oui. Donc, allons-y, remettons des ours. Parce que oui, certes, ils étaient là avant. Et oui, les hommes les ont exterminés. Donc, on en remet, ce qui peut sembler tout à fait logique et aller dans le bon sens.
Oui, ça encore, en fait, là, c'est un grand débat philosophique.
Oui, mais qui peut...
Parce que quand même, n'oublions pas que Charlemagne a organisé des battues pour abattre tous les ours.
Oui, alors pas tous, mais beaucoup. Il en a tué énormément. Et tout au fil des siècles, on a gagné, l'homme a gagné du territoire sur le sauvage et donc a contribué à exterminer
Continuez.
Le sauvage. Et c'est vrai que... Il y a ça, et d'un autre côté, il y a l'idéologie, et puis il y a la réalité. C'est-à-dire, on remet des ours, oui, mais comment? Et ça, c'est une question fondamentale. On ne peut pas aborder
le sujet...
C'est
une question philosophique, je dirais
presque. Oui, philosophique, mais on ne peut pas aborder ce sujet...
Parce qu'il y a 50 ans, personne n'aurait eu cette idée. Ou il y a 100 ans, mais quelle idée de remettre des ours? Enfin, c'était
oui,
complètement
sûr,
dément. On s'en
semblait...
était enfin débarrassé. Et maintenant, il y a des écolos intello qui disent il faut remettre des ours, il faut remettre des loups. Et en fait, les gens qui sont concrets... disent pourquoi. Enfin,
oui, et puis surtout,
les raisonnements intellectuels, c'est bien beau, mais il faut voir où ils mènent.
Il faut voir comment on le fait. C'est-à-dire, mettre des ours. Il y a beaucoup d'éleveurs qui vous auraient dit, mais au final, nous, on n'est pas contre l'ours. D'ailleurs, ce ne sont pas les éleveurs qui ont exterminé les ours. Ce ne sont pas les paysans qui ont exterminé les ours.
Non, ce sont les seigneurs.
Il y a eu des tueries qui ont été organisées par l'État, notamment. Hein, notamment les préfets, au début du siècle, organisaient des tueries d'ours.
Et ça, il faut bien l'entendre, chers amis auditeurs.
Les gens étaient obligés de venir. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours eu un conflit entre l'ours, qui est un super prédateur, et l'homme, qui est aussi un prédateur. Il y a toujours eu un... Ce n'est pas une relation de bisounours. Il y a toujours eu un conflit de territoire. C'est-à-dire que les ours prélevaient sur les troupeaux. Donc, quand un ours était trop agressif, les éleveurs allaient le tuer et ça faisait à manger. Aussi, ça apportait des ressources. Mais les éleveurs, les gens des vallées, n'ont jamais eu une haine farouche de l'ours.
Je le pense.
C'est-à-dire,
et
on le voit dans le livre avec tous les contes de Petite Mère. Donc, ce sont les contes racontés par Petite Mère, qui est la grand-mère de Zita, à sa petite fille. Et que Zita, ensuite, elle-même va raconter à Inès, qui est sa belle-fille, donc la fille de Pierrick. Et ces contes-là racontent aussi une autre histoire beaucoup plus sensible des Pyrénéens, des gens des montagnes, avec l'ours. C'est-à-dire que l'ours, il y avait un culte de l'ours dans les temps pré-chrétiens, dans les Pyrénées, ce qui n'empêchait pas de le combattre et de le tuer parfois. Mais il y avait quand même une adoration de l'ours parce qu'il nous ressemble, c'est un peu un double de l'homme.
Une fascination.
Une fascination pour cet animal incroyable. Il y a une époque aussi, on allait prélever des oursons dans les tanières pour devenir montreurs d'ours, pour pouvoir survivre. Et donc, pendant 2 ans, les oursons vivaient comme avant qu'on leur fasse la ferrade, c'est-à-dire qu'on leur passe un anneau, ce qui était assez barbare, dans le nez, à travers l'os du nez, etc., pour pouvoir les tenir quand ils étaient plus grands. Pendant 2 ans, les oursons vivaient dans les fermes. Et donc, ils jouaient avec les enfants, c'était comme des petits chiens, comme des animaux de compagnie. Donc, il y a des relations très singulières entre les hommes et les ours qui dépassent le pour ou contre. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce sujet si on ne gratte pas un peu derrière et qu'on ne se dit pas, y a toujours eu une relation singulière, mais il y a toujours eu aussi... Un conflit, ça a toujours été une histoire de conflit, de tension et d'équilibre à trouver. Et là, l'équilibre, on ne l'a pas trouvé parce qu'au lieu de refaire les choses, on aurait pu laisser la nature reprendre sa place en douceur. Au lieu de faire ça, on a réintroduit de façon brutale, verticale, des ours qui viennent de Slovénie, qui ont été piégés avec de la viande et qu'on a balancé sans leur demander leur avis dans un environnement qui n'est plus le même, qui n'est plus les Pyrénées d'aujourd'hui, ne sont plus les Pyrénées d'il y a 100 ans.
C'est certain. Nous allons faire une petite pause en écoutant une chanson sur l'Ariège pour nous faire partir un petit peu en rêve dans ce pays qui est mitoyen de Toulouse, dans cette région mitoyenne de Toulouse.
Ariège, Ariège, mon pays, o terra tanta imado, maire tanta durado, te presero in tu giur. Tu non me rejouis, Ariège, oh mon pays. Ai, vida tas montagnes superbes, libère l'urme du blanc avirumen. Mais din l'estiu de mes las autoservos, les agnelus reginum folome. Ariège, Ariège, mon pays, o terra tanta imado, mai tanta durado. De prese luego in tu giur, tu non me rejuis, Ariège, mon país. Ai, mi tabe, tas campagnos pulidos, un tut prospero e la vigneles blancs, tus rius d'argent e tas prados floridos, e tus planes de bosques coronats. Ariège,
Parole d'auteur. Bélita de Bangy.
Je reviens à votre livre. Il y a une question importante que je ne vous ai pas encore posée pour nos amis auditeurs, c'est pourquoi avoir parlé de l'ours ? Pourquoi est-ce que l'ours est une partie très importante, et d'ailleurs c'est le titre de votre livre, qu'est-ce qui fait que vous, journaliste, vous avez eu envie de parler de l'ours ?
Alors l'ours s'est imposé parce que je voulais parler de la ruralité, je voulais parler de la campagne, je voulais parler de ce que c'est que de vivre à la campagne, de grandir dans le monde agricole et de se retrouver à une place un peu en équilibre entre ce monde-là et le monde urbain et du décalage entre ces deux mondes. J'avais très envie de parler de ça et de parler de la campagne avec le regard de quelqu'un qui en vient. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village de 80 habitants. On élevait des animaux, j'ai fait un bac agricole et j'avais besoin que le personnage principal, qui n'est pas moi, mais qui bien sûr s'inspire de choses que j'ai ressenties aussi, vienne de ce monde-là, que ce soit un regard qui soit de l'intérieur. Et non pas, comme il y a souvent en littérature, un regard extérieur de quelqu'un qui du bobo, du scientifique ou de quelqu'un de l'extérieur qui parle de ce monde rural. Et l'ours s'est vite imposé parce que je vais souvent en Ariège, je vais souvent dans le Couserans où j'ai une sœur qui est vétérinaire. Et je me suis retrouvée un jour après une attaque d'ours avec un éleveur. Et là, j'ai vu la détresse de ce monsieur.
C'est pour ça que vous le décrivez si bien, c'est parce que vous l'avez vécu.
J'ai ressenti cette détresse.
Oui.
Et moi qui avais été amenée à traiter de ce sujet, de l'ours en tant que journaliste, c'est-à-dire les pros, les anti, à parler de la colère des éleveurs, là, il n'était pas question de colère, il était question d'une forme intense de détresse et d'incompréhension.
D'accord. Vous l'avez compris, vous l'avez ressenti.
C'est ce que j'ai ressenti. Et je me suis dit, cette détresse-là, il faut en parler. Et en plus, c'est très symbolique, l'ours. C'est très symbolique de ce décalage de point de vue sur le sujet, c'est-à-dire que tous les éleveurs, tous les gens qui vivent de la terre là-bas et qui sont confrontés sur le terrain à l'ours sont contre les réintroductions et sont contre la façon dont ça a été mené. Et tous les gens qui sont pour sont des gens qui parfois vivent en Ariège, mais qui n'ont pas qui n'ont pas de lien direct, c'est-à-dire qui ne sont pas impactés par l'ours. Tous ceux qui sont impactés, bien sûr, il y a un antagonisme.
Il y a un antagonisme, on le sent dans le livre d'ailleurs.
Que ça, pour moi, il ne fallait pas le prendre, je n'avais pas envie de l'aborder de façon politique, c'est-à-dire, même si c'est un sujet qui est politique, l'aborder de façon politique, c'est-à-dire les pros, les anti d'un côté, suivre quelqu'un qui est pour d'un côté, suivre quelqu'un qui est contre. Je voulais le suivre avec le regard d'un éleveur qui est singulier, parce que le regard de Zita, c'est une fille qui est partie, qui a une conscience écologique, qui a une conscience de la chute de la biodiversité, qui est pas du tout, elle n'a pas du tout rien à faire de la biodiversité de sa montagne.
Oui, elle prend le sujet à cœur.
Elle a un lien avec l'ours aussi historique et familial qui est fort. Et pour autant, l'ours vient lui manger ses brebis et met en péril sa famille. Et du coup, c'était ça que je voulais. C'était faire aussi rentrer dans l'intime, parce qu'elle, elle devient belle-mère de la petite Inès. Et ce sujet de l'ours va rentrer dans l'intime de sa famille, puisque d'un côté, la famille de Pierrick, tout le monde trouve ça formidable, les ours dans les Pyrénées, il y en a même qui manifestent pour. Et puis de l'autre côté, elle a sa famille, elle a ses idées. Et donc, ça permettait de faire aussi de rentrer dans l'intime d'une famille ce sujet, et ça permettait du coup de parler de la détresse. Parce que quand le troupeau d'Ita est attaqué, la détresse de son père, après un dérochement, c'est-à-dire des brebis qui chutent, parce qu'elles ont eu peur de l'ours, et donc elles tombent, elles se fracassent du haut d'un pic rocheux. Pour parler de cette détresse-là, de la détresse du père, de la détresse de Zita, il faut être au plus près d'eux.
Oui.
Il faut les écouter.
C'est très bien décrit, d'ailleurs. Vous le décrivez très très bien dans le livre. On voit bien que là, ce n'est pas du tout intellectuel. On a l'impression que vous y avez été, et en fait, vous me le confirmez. C'est pour ça que vous le décrivez si bien. Quand vous parlez de la belle famille, enfin du couple toulousain qui défend l'ours, je l'ai trouvé un peu caricatural quand même. Ces bobos toulousains qui défendent l'ours.
Alors c'est marrant parce qu'on
ne m'ont pas convaincu pour deux sous.
On me l'a déjà dit. En même temps, moi je trouve que c'est...
Visiblement ils n'y connaissent rien. C'est intellectuel.
Je veux pas être méchante avec eux, mais
non, c'est pas votre genre.
Je suis moi aussi de fait. Je vis à Toulouse. Je suis venue en vélo. Je suis moi-même de fait devenue une bobo, comme disent mes amis paysans. Et pourtant, c'est ce que je vois tout le temps, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont des très bonnes idées des idées que j'estime très bonnes dans l'idéologie, quand on voit l'idée exposée comme ça, on se dit oui, très bien. Et puis, au fond, il y a quand même un problème de méconnaissance.
Ils sont hors sol, hein.
Un côté hors sol.
Attendez,
bien sûr.
Moi je les trouve complètement hors sol.
Alors je dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, mais Pierrick, il tente des choses. Il essaye, quand il va dans la famille de Zita, il essaye de s'intéresser à la ferme, à la montagne. Lui, il va en montagne pour faire des trails, pour courir. Et c'est vrai qu'il sait pas ce que c'est que de survivre dans la montagne, d'y vivre l'hiver.
Il est un peu caricatural quand
l'année.
Même aussi.
Je sais pas, moi je trouve qu'il ressemble à un bobo.
Je ne pourrais pas dire que c'est le héros du livre.
Ah non, mais bien sûr.
Ça, c'est pas le héros du livre.
C'est Zita. Lui, c'est
Zita qui est sympathique, courageuse, battante, etc. Mais alors lui, il est un peu falot quand même.
Lui, c'est un bon garçon, moi je trouve. C'est un garçon qui essaye de faire ce qu'il peut. C'est-à-dire, il se retrouve coincé entre une fille qu'il aime, qui vient d'un monde très particulier qu'il ne connaît pas, le monde pastoral, qui est prise dans les tourments de l'ours et de tout ce qui va s'en suivre dans le roman, puisqu'il y a plein d'événements qui vont arriver liés à l'ours. Et donc sa famille est prise dans ce tourbillon-là, et elle aussi. Et d'un autre côté, son ex-femme, sa petite-fille, des gens avec qui il est obligé de maintenir des bonnes relations. Et ces deux mondes-là se confrontent et ne s'entendent pas en plus. Et du coup, lui, il se retrouve à un espèce de point où il ne sait pas quoi faire. Il est dans une position très, très difficile, très inconfortable. Donc, je ne pense pas qu'il soit falot. C'est qu'il... Alors après, pardon.
C'est pas un héros, hein.
Non, vous
n'en faites pas un héros.
C'est un homme.
Pas du tout un héros. Ni avec Zita, ou quand même quand il cède à tous les caprices de la petite fille. Et alors, il dit, Zita, un mauvais caractère, mais attendez, quelle est la femme qui ne se serait pas emportée de voir cette petite fille qui est insupportable et mal élevée, quand même, dans le livre. Et alors je trouve que, si vous voulez, je trouve qu'il est caricatural, Émilie aussi, et Inès aussi.
Peut-être, je sais pas. Moi, c'est pas comme ça que je les ai conçus, mais... Peut-être. Pour moi, c'est des gens qui ressemblent à la réalité. C'est-à-dire, c'est des gens.
C'est l'enfant roi, alors. C'est l'enfant roi, les parents.
Je dis pas que c'est l'enfant roi. C'est un enfant qui a des parents séparés et tout le monde fait ce qu'il peut. Hein. Je pense que c'est des gens qui ressemblent beaucoup au réel. C'est-à-dire des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent dans une situation qui est pas évidente. Et il y a pas de méchant dans cette histoire. Pour moi, ce sont des gens qui font ce qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont, avec la vie qu'ils ont, et ils se retrouvent confrontés eux aussi à ces événements autour de l'ours qui arrivent et qui vont les perturber, qui vont faire exploser cette espèce d'entente cordiale qui est entre tous ces protagonistes. Mais moi, pour moi, c'était d'autres. Je les voyais, tous ces personnages, comme des gens qui arrivent dans la vie de Zita et qui représentent aussi d'autres façons de penser qu'elle. Je voulais pas qu'une seule façon de penser qui soit représentée, qu'elle est toute la. Parce que ce qui m'intéressait, c'est cette confrontation. C'est-à-dire d'autres façons de penser qu'elle. Il y a celle de Pierrick qui dit, mais je pense que les ours et les hommes, ils peuvent cohabiter, quand même, on va s'en sortir. Il y a la petite fille qui dit, ah, c'est incroyable d'avoir des ours dans les montagnes, ça l'a fait rêver, mais il y a plein de gens comme ça, il y a plein d'enfants qui ont ce regard-là, hein, parce que c'est aussi toute une communication qui est passé par là. Et puis, il y a le regard d'Émilie, qui est aussi un autre regard, qui, elle, pense que l'élevage, c'est de la maltraitance, qu'elle n'est pas forcément pour l'ours dans les Pyrénées. Elle est pour la cause animale en général, elle est végétarienne, elle ne veut pas qu'on mange d'animaux, et elle pense que les éleveurs sont des maltraitants. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir plein de regards différents sur notre rapport au monde, sur notre rapport à l'animal, qui sont incarnés par Pierrick, par Inès, par Émilie, par la mère d'Inès qui s'appelle Mimou, et que toutes ces personnes-là représentent d'autres regards sur le monde qui viennent se confronter à celui de Zita. Et c'est cette rencontre, moi, qui m'intéresse.
Oui, mais quand même, enfin, chers amis et auditeurs, moi, je trouve que Zita semble la seule lucide, la seule à avoir les pieds sur terre, parce que les autres, finalement, ne sont pas très heureux. Enfin, Pierrick n'est pas très heureux, Émilie n'est pas très heureuse, Inès n'est pas très heureuse. La seule qui trouve un certain bonheur, c'est Zita, quand même. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il se passe quelque chose de très surprenant.
Il faut peut-être pas dire.
Non, je vais juste te dire, parce que c'est pas le... Mais ce qui se passe de très surprenant, c'est que la petite Inès, elle en a ras-le-bol de tous ces bobos toulousains, et où va-t-elle? Elle va rejoindre Zita. Ce qui prouve que finalement, instinctivement, finalement... Enfin, je me suis demandé si c'était pas le bon sens, finalement, de cette petite fille qui est malmenée par des adultes qui sont quand même... assez perturbé quand même, qui lui propose des choses qui sont pas très rigolotes. Et finalement, la petite fille, elle part, elle fait du stop pour retrouver Zita, qu'elle a détestée, qu'elle a critiquée, finalement. C'est un rebondissement. Bon, c'est pas l'essentiel du livre, mais cette petite Inès, moi, ça me surprend quand même qu'elle aille voir Zita.
Parce que je pense qu'il y a... Alors, je ne suis pas là pour porter du jugement, dire de quel côté le bon sens, etc. Je pense qu'on se débat tous avec notre culture, avec ce qu'on peut, avec nos histoires personnelles. Mais pour moi, il y a un lien avec le monde rural qu'ont les enfants de façon un peu innée. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel enfant, vous le mettez à la campagne ou dans une ferme, il va tout à coup s'apaiser, se calmer, il va s'intéresser à autre chose qu'à un écran. Enfin,
Bien sûr. Il y a
quand même une réalité de ce que la nature, mais à tout le monde, hein, nous aussi les adultes, ce que la nature nous apporte.
Nous tous de la campagne.
Exactement.
Hein. Tous. Hein.
Et ce lien à la nature qui s'est très distendu, c'est quelque chose d'immense. Et je pense aussi que c'est ça que Inès recherche, finalement. C'est ce lien à la nature. Et quand vous dites tous ces personnages sont malheureux, bah oui, mais voyez dans le monde dans lequel on vit. Quand même dans un monde où la marchandisation des choses et des gens est reine,
c'est vrai,
où on ne s'intéresse pas beaucoup aux autres, où on vit dans un environnement très pollué avec une peur aussi du climat, des scandales de pollution, etc. C'est quand même... on vit dans un monde qui n'est pas évident. Hein,
ah, mais je suis d'accord, mais ça, c'est très bien décrit, justement.
Pour trouver sa place, et tous ces personnages, qu'est-ce qu'ils font? Finalement, ils font qu'essayer de trouver leur place.
Oui.
Pierrick, il essaie de trouver sa place en tant que père séparé, ce qui est une situation très commune, mais qui n'est pas évidente. Émilie, son ex-femme, elle aussi, elle essaye, elle pensait qu'elle allait se réinventer une vie en tant que mère seule, mais en fait, pas du tout. Elle est malheureuse, elle aussi, elle n'arrive pas à trouver sa place. Elle est dans un milieu professionnel où il n'y a pas d'avenir, où elle est mal payée, où elle trouve pas de travail. Enfin, ça raconte pour moi une génération aussi. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi j'ai une trentaine d'années, c'est la première génération qui a fait des études longues, des gens qui ont fait plus d'études que leurs parents. Leurs parents, parfois, n'avaient pas le bac et qui se retrouvent dans un marché du travail catastrophique avec pas d'emploi ou peu d'emploi ou des emplois très mal payés ou alors, une relation au travail qui n'est pas très saine. Et en même temps, une qualité de vie qui est bien moindre que celle de leurs parents.
C'est-à-dire
l'habitat coûte cher, tout coûte cher. En ville, on vit un peu serré comme des sardines quand même.
Ah oui, ça c'est très bien décrit.
Et dans le monde rural, c'est aussi très difficile de trouver. Je veux dire, ce sont des territoires qui sont dépeuplés où il n'y a plus de travail. Et où vivre de la terre aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. D'autant plus en zone de montagne. Donc Zital aussi, elle n'est pas tout le temps heureuse parce qu'elle cherche sa place. Elle est à Toulouse. Quand elle est à Toulouse, elle a envie d'être à Housseize. Et quand elle est à Housseize, elle se dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour vivre ici ?» Donc, elle est tout le temps... Ce sont des gens qui cherchent leur place, en fait, dans un monde où il est devenu de plus en plus difficile d'habiter.
Oui, ça, c'est très bien décrit.
C'est la même chose pour l'ours. C'est que l'ours, finalement, cherche aussi sa place. Les ours, là, ils tâtonnent. C'est parce qu'ils cherchent des territoires, des espaces où être tranquille et où avoir de quoi manger. Et finalement, il n'y a pas assez d'espace pour eux. On ne leur laisse pas assez d'espace. Il n'y a pas assez de place. On a remis ces ours sans réfléchir au fait qu'il n'y avait plus assez de place pour eux.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu qu'ils iraient tous dans le Couserans.
Ça, c'est oui, on que... aurait pu. Alors, si on avait suivi les études des chercheurs, on savait qu'ils peuvent vivre de façon rassemblée sur un endroit. On savait que ce qu'ils cherchent, c'est les espaces tranquilles. Il y a une ours qui a été tuée il y a quelques années à côté de Lourdes sur une route par un camion. C'est-à-dire, ils fuient les zones où il y a des routes, des camions, et vous avez des routes partout maintenant. Donc, les espèces de poches de nature sans grosse route, sans mouvement, il n'y en a pas beaucoup. C'est le Couserans. C'est là où ils sont.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger pour les gens qui vont se promener ?
Ah, bien sûr, il y a un danger. Alors, je ne vais pas vous dire que vous avez un danger si vous allez vous promener dans la montagne, mais si vous allez dans le Couserans, on ne peut pas dire que...